attitude, mais on l'espère que l'on vous reviendra très vite dans 2 semaines. Mais en attendant, ne parlons pas de malheur et parlons de notre émission La Banane Rose, qui cette semaine va parler de la sexualisation, thème proposé par notre petite nouvelle qui est dans le studio.
Bonsoir.
Bah, tout le temps des
nouveaux. Vous entendez exactement. Comme vous l'avez remarqué, depuis 3 semaines, chaque émission est composée de 3 personnes fixes qui sont Léo, Laura et moi-même, Virginie. Je vous présenterai après, je vous demanderai comment vous allez. Mais nous introduisons également une nouvelle personne par émission qui, on a dû faire un choix. Notre équipe manquait d'une personne et 3 personnes se sont proposées, tellement motivées qu'on n'a pas pu les départager. Et vous avez eu la chance de rencontrer Clara, Nicolas. Et cette semaine, vous avez le droit de rencontrer Amy. Salut Amy.
Salut, bonsoir à tous.
Comment tu te sens pour cette première émission?
Un peu nerveuse, mais très contente d'être de retour dans les studios après une trop longue pause.
Et ben nous, on est super contents de t'avoir avec nous pour parler de ce thème que t'as proposé, la sexualisation. Mais pour en parler ce soir, vous avez également votre fidèle chroniqueur Léo.
Ah, merci.
Oui, j'étais bien obligée de t'introduire comme ça. Toi, tu nous clashes à chaque fois, mais voilà, nous, on est gentils.
J'ose jamais.
Et celle qui gère la tech, qui gère tous les problèmes de la tech et qui gère son stress, mais qui arrive très bien à faire l'émission, c'est Laura. Coucou Laura.
Bonsoir.
La motivation.
La motivation qui veut dire le studio a failli planter juste avant qu'on fasse l'émission, mais c'est bon. Car grâce à Laura, vous avez le droit à notre émission tout entière, j'ai envie de dire, à chaque fois, car elle gère à fond le programme. Qu'elle le veuille ou non, elle le gère quand même. Ce soir, pour parler sexualisation, vous pouvez nous écrire, vous pouvez communiquer toutes questions que vous auriez par rapport à nos chroniques, par rapport au sujet, au 079 921 47 00. N'hésitez pas à nous envoyer vraiment tous vos avis. Et malheureusement, lors de cette émission, nous n'avons pas de petits gadgets à vous faire gagner. Ces gadgets reviendront bientôt grâce à notre sponsor Bonbon Rose, qu'on remercie d'avance d'ailleurs. Et oui. Excusez-moi, on me fait des gestes, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Excusez-moi, c'est pas très radiophonique. Mais ces petits gadgets reviendront, vous en saurez plus en suivant nos pages Facebook.
Sinon, genre, s'il n'y a pas d'objet, c'est vous gagnez une nuit avec l'un de nos membres.
De quel membre parles-tu?
Tiré au hasard. Ce sera tiré au hasard.
Exactement.
Du coup, ce sera peut-être un petit doigt de pied, donc.
Mais ce n'est pas la taille qui compte, Léo. J'espère que tu es au courant de ça. Pour conclure cette trop longue
intro,
désolée, je me suis un peu perdue, on va vous passer un petit peu de musique. Et Laura, quelle est donc cette musique qui va arriver?
Watch Me Burn.
Exactement, de
Michel Moron, je
Merci.
Sais. Moron. Enfin, ce cas.
À tout de suite.
Alors, merci à Léo qui fait la tech. Hein.
Pour l'instant, ça marche.
Tu te délaisses de ça.
Ouais, ça fait du bien d'ailleurs. J'aimerais bien vous en parler, mais j'aimerais bien qu'on fasse moitié-moitié. Hein. Du coup, pour revenir au sujet de cette émission, la sexualisation, j'aurais besoin de vous à la fin de l'émission, si jamais. J'ai pas pu vous dire aussi avant.
Pour un truc de sexualisation, ça c'est un peu bien.
Non.
Tu as besoin d'aide, Laura?
À la fin de la chronique, j'aurais besoin de vous.
D'accord, on est prêts.
Ok.
On se met dans... Voilà.
Nous avons vu ces derniers mois des manifestations, des journées spéciales à l'école pour la libéralisation des corps de femmes. Pour ne citer que quelques-unes, il y a eu l'événement avec cette femme qui s'est vue interdire l'entrée d'un musée en France car son décolleté était jugé inapproprié. Et ensuite, il y a eu des manifestantes seins nus dans le dit musée. Et il y a eu également toutes ces discussions autour du fait que les jeunes filles devaient pouvoir s'habiller comme elles voulaient pour aller à l'école. Ce qui a donné lieu au hashtag lundi 14 septembre en France, où les filles étaient invitées à venir habiller de manière indécente. Mot qu'on peut retrouver dans les journaux à propos de ce fameux jour. Le but était de créer un pied d'égalité entre les garçons qui peuvent, eux, s'habiller comme ils le veulent et les filles qui sont restreintes. Pour rappel, en France, le 14 septembre, il faisait plus de 30 degrés, mais cela rentrait en contradiction avec le fait qu'il faut, à l'école, une tenue correcte selon le règlement. Bien sûr, tenue correcte est l'opposé de sexualiser selon les différentes institutions. Cela amène certaines personnes à amener dans le débat que c'était... Cela amène certaines personnes à amener dans le débat que c'est permettre la sexualisation de personnes mineures parce que ce lundi 14 septembre concernait surtout des écolières mineures. Alors certes, quand on tape sexualisation sur Internet, on tombe directement sur la page Wikipédia d'hypersexualisation qui est, je cite, un terme employé par des spécialistes en psychologie de l'enfant, sexologie ou sociologie pour désigner la tendance observée depuis la révolution sexuelle des années 60 à une commercialisation et médiatisation de la sexualité qui affecte le développement des enfants et adolescents.
Ça, c'est pratique, j'aurais pas besoin de le préciser dans ma chronique, merci.
Je sais qu'on parle à peu près de la même chose, toi et moi, donc voilà, j'ai fait plus détaillé. On peut également y lire dans cette fameuse page Wikipédia, sous la rubrique « Conséquences pour les filles », je cite « Filles et garçons ne sont pas égaux face aux conséquences de la sexualisation précoce. Pour les filles, le phénomène d'hypersexualisation est plus dangereux que chez les garçons. Les filles, notamment les nymphettes, ce que j'ai été chercher signifie Lolita. »
Oui, de Naya Nabokov, pardon.
De quoi ?
C'est d'un bouquin, pardon, excuse-moi.
Ok, je connais ça.
Excusez-moi, je voulais pas couper.
C'est pas grave.
Ça vient de là.
Donc les filles, notamment les nymphettes, qui imitent ces comportements sexuels par leurs vêtements, les danses, la consommation de pornographie, la pratique de relations sexuelles, sont beaucoup plus mal jugées que les jeunes hommes du même âge qui auraient les mêmes pratiques. Alors oui, c'est vrai, il y a malheureusement une différence et comme on peut voir sur certaines vidéos concernant ce fameux lundi 14 septembre, les jeunes filles voulaient, en venant habillées de la façon dont elles voulaient, stopper la manière dont on les sexualise, reprendre possession de leur corps. C'est le combat des femmes en général de vouloir s'habiller comme elles le souhaitent et de ne pas se faire siffler ou pire, insulter dans la rue. Mais là est un cercle vicieux, selon moi. Vient la question de est-ce normal qu'un enfant sexualise son corps en s'habillant de telle manière ? Quand on avait 12 ans, et imaginons qu'on voulait imiter Britney Spears dans ses clips, on ne savait pas ce qu'elle disait, par exemple dans Slave for You, on la trouvait juste belle et on voulait être comme elle. On peut imaginer qu'encore maintenant, les jeunes filles ne savent pas réellement que ce genre d'habillement... Oula, j'ai de la peine avec le masque, c'est horrible. je vous avertis, c'est difficile. On peut imaginer que encore maintenant, les jeunes filles ne savent pas réellement ce que ce genre d'habillement implique. Sauf que c'est justement là le combat. Elles voudraient que ce n'implique plus rien du tout. Mais est-ce vraiment un combat que les enfants doivent faire ou est-ce à nous, adultes, de le faire ? L'erreur est certes de sexualiser le corps de la femme, mais on peut se demander si l'erreur n'était pas à la base également à un moment donné, sexualiser le corps de l'enfant. Donc, quel est votre avis, selon vous ?
Moi, je propose qu'avant cet avis, justement, vu qu'il y a ma chronique après qui va rejoindre, et on pourra faire le débat après, je pense.
C'est vrai ?
Ouais. Okay. Enfin, si ça te va. Après, c'est...
Parfait.
C'est comme toujours. Après, peut-être... Enfin, si ça vous va aussi.
Ouais, ça va.
pas de soucis. Ça va très bien.
Et bah, parfait. Du coup, je pense qu'on va pouvoir lancer la prochaine musique qui est de Sexual de Naked. Franchement, ça va bien. Le thème de l'émission, rappelons-le, c'est la sexualisation. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est des petites filles. Bon, donc je vais parler de la sexualisation des petites filles qui, comme Laura le disait, sont influencées par les clips de la musique. La jeunesse en perdition, où va le monde ? Et bien sûr, c'est dans la pop musique que le phénomène est le plus marqué. L'hypersexualisation est à la limite de la pornographie dans certains clips. Et on le sait, dans le monde de la musique, le meilleur moyen de se faire connaître pour une femme, c'est d'être sexualisée. Disons que c'est le moyen le plus rapide, il y a des chemins plus sinueux, mais il y a l'autoroute qui est plus simple aussi. Et bah, on sait que c'est pas la majorité qui va sur les chemins un peu plus durs. Nicki Minaj, Miley Cyrus, Selena Gomez, Ariana Grande, ces superstars influencent les jeunes, qu'on le veuille ou non. Et nous, on a bien été et entendu influencés par peut-être les mêmes d'ailleurs, ou d'autres stars. Il y a les jeunes qui vont les imiter sur TikTok, on peut facilement trouver des petites filles qui dansent et se comportent comme des adultes avec des mouvements très suggestifs. C'est bien simple, vous faites des vidéos de twerk ou remuage de postérieur en québécois et vous obtiendrez facilement 100 000 voire des millions de vues. Alors je sais qu'en tant que gars, parler de comment les femmes doivent s'habiller, c'est peut-être un peu limite. Mais bon, on peut être critique culinaire sans savoir cuisiner. De toute façon, vous pouvez me faire confiance. Je sais comment parler aux femmes. Une fois sur Internet, j'ai failli avoir un rendez-vous. D'un côté, clairement, on s'habille comme on veut. Libération de la femme, tout ça, tout ça. Et de l'autre, on dirait qu'à partir d'un certain âge, une petite fille qui est sexualisée comme un adulte, bah, ça gêne. Pourquoi ? Et pour être honnête, j'arrive pas à savoir si c'est un problème moral ou si je suis juste jaloux. Nous, à leur âge, on était habillés en pyjama avec un pantalon troué et une chaussure manquante. La dernière fois que je suis allé m'acheter des vêtements, je me suis fait la réflexion que le gamin de 8 ans, bah, il s'habille mieux que moi maintenant. Bon, en même temps, c'est pas difficile, vous allez me dire. Mais revenons à nos moutons qui tirent sur l'ambulance. Pourquoi ça gêne de voir une petite fille de 10-11 ans qui a l'air d'en avoir 18 ? Est-ce que c'est la peur d'être potentiellement attirée par un ou une mineure en tant que majeure ? Il y avait un test qui traînait sur Internet il y a quelques années, justement, où il fallait déterminer l'âge de la personne en fonction de la photo. Et la plupart, bah, c'était des mineurs qui avaient l'air d'avoir 18-20 ans. Du coup, après le test, t'es un peu là, merde, j'espère que la police est pas là. Donc, on fait quoi ? Justement, ça arrive sur le débat. On interdit aux filles de trop se sexualiser plutôt que de remettre en question notre comportement. On dit juste, oui, bon, ok, c'est attirant, on passe à la suite, il n'y a pas d'acte, problème réglé. J'ai l'impression que c'est pas en interdisant tel ou tel habit que ça va changer les pensées, non. Ouais, je sais pas. C'est assez problématique car ça touche la notion de morale. Trouver des enfants attirants, on va pas se mentir, c'est pas super bien vu. Quand on dit « j'aime les enfants », à part Jésus, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le dire sans qu'on nous regarde bizarrement. Donc, je comprends l'idée de, entre guillemets, réhabiller les gens avec ces jupes qui sont indécentes, plutôt que de se poser les questions qui fâchent. Et du coup, par contre, selon moi, c'est la sexualisation et à outrance, justement, dans un but commercial et artistique qui me pose plus problème. Genre, c'est à partir du moment où, pour moi, ça devient vulgaire, mais inutilement, justement. En gros, c'est quoi le message, hein, un peu. Par exemple, il y avait l'art contemporain, la première personne qui s'est roulée dans la boue en criant des trucs chelous. Bon, ok, c'était peut-être novateur, il y avait peut-être un message, ça questionne notre rapport à la nudité, à l'existence, admettons. Mais ceux qui font la même chose maintenant en s'insérant juste une tour Eiffel dans le vagin, qu'est-ce que ça apporte ? En fait, c'est vraiment cette idée de... Qu'est-ce que ça apporte, toute cette sexualisation, justement ? Pour moi, s'il y a quelque chose à en retirer, ça peut être intéressant, mais après, ceux qui font ça juste pour choquer dans un but commercial, bah... Bon, après, je comprends, hein, c'est marketing, mais... Du coup, voilà, je suis désolé pour toutes ces questions et ce brouillon. Et du coup, voilà, si vous avez des avis, si j'ai dit quelque chose de choquant, n'hésitez pas à réagir, si on voulait aussi réagir sur la chronique de Laura, c'est ça ?
C'est... Eh ben... Je sais pas si Amy, tu veux réagir avant moi, je ne sais pas. Aussi,
vas-y,
je commence.
Vas-y.
Alors moi déjà, j'aimerais revenir sur ma réaction que j'ai eue quand Laura a eu sa chronique par rapport en parlant des Lolita. J'ai appris en fait, il n'y a pas longtemps, parce que moi je connaissais le terme Lolita, je voyais ce qu'englobait le terme Lolita, c'est-à-dire des jeunes filles qui étaient sensuelles, qui étaient mises en avant un peu des pin-up, mais qui étaient jeunes. Comme par exemple faire l'expression « faire sa Lolita », qui était quand même quelque chose que je connaissais pas mal quand j'étais plus jeune. Pas pour moi, mais j'entends dans l'entourage, dans les films qu'on entendait. Et je comprenais pas d'où ça venait. Et il y a pas longtemps, en fait, ma meilleure amie m'a offert le livre de Nabokov, qui est un auteur russe qui a écrit justement Lolita. J'ai lu cette histoire et j'ai vu d'où ça venait. Et j'ai après été regardée parce que en fait, l'histoire, pour vous la résumer en bref, c'est un homme attiré par des jeunes femmes qui n'a jamais pu assouvir un besoin quand il était plus jeune de coucher avec justement sa première nymphette qui avait le même âge que lui. Il en restera frustré toute sa vie et à chaque fois en fait son attirance sexuelle sera pour les jeunes filles. Mais en fait le livre est construit comme un plaidoyer de son histoire qui raconte comment il en est venu à connaître celle qu'il nommera Lolita mais qui s'appelle Dolores dans le livre et qui va être complètement amoureux de cette femme, de cette petite fille qui a 12 ans à l'époque, qui va prendre, pour rester dans des termes courtois, quand sa mère va mourir et qu'en fait il va s'autoproclamer son tuteur et il va voyager avec elle pendant des années en la violant alors qu'elle n'a pas envie en fait et reste avec lui parce que voilà, c'est vachement glauque, c'est présenté comme de son point de vue où il essaye de se défendre, de comprendre, en fait, de dire qu'en fait, non, mais en fait, elle le provoquait et tout ça. Et, en fait, moi, j'avais toujours entendu, quand je parlais de Lolita, que c'était la jeune fille qui aguichait. J'ai lu le bouquin. C'est clairement marqué, c'est clairement mis qu'elle n'a pas envie, que, voilà, qu'elle a des réactions de dégoût, elle a des réactions, voilà. Et à l'époque, quand le livre est sorti, les hommes ou les plateaux télé, je dis les hommes, mais parce qu'en fait, c'était beaucoup dans les plateaux télé des hommes qui présentaient les émissions plus que des femmes. Et tout le monde s'entendait à dire que c'était la jeune fille qui avait provoqué l'homme.
A provoqué.
Et c'est comme ça qu'est né le surnom, l'expression « faire sa Lolita ». Et Nabokov a défendu son personnage en disant « mais non, en fait, c'est pas ça ». Il y a eu des interviews où l'auteur disait « mais non, ce que je suis en train de montrer, c'est une pauvre fille qui s'est fait prendre, en fait, et qui, à la fin, a un syndrome de Stockholm, parce qu'en fait, elle arrive à s'échapper, elle se marie avec un autre homme, et un jour, il se retrouve, parce que lui, il l'a toujours aimé que elle, et en fait, elle lui en veut absolument pas, elle a pas dit à son mari ce qui s'était passé, mais voilà, en gros, elle vit sa vie, elle l'appelle toujours papa, puis... C'est vachement intéressant de lire le bouquin, si jamais, mais ça montre quand même une pensée que la sexualisation évolue aussi avec les époques et évolue avec les critères qu'on peut avoir de ce qui est sexuel et de ce qui est admissible ou non. Et on en rejoint à ta morale de savoir, est-ce que moralement, on peut dire qu'une enfant peut attirer. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de ce qu'on avait parlé dans l'émission des fantasmes, de peur, en fait, de dire « mince, mais on peut être attiré par ça ». Et moralement... Si on réfléchit bien, la seule chose qui nous empêche de coucher avec des enfants, c'est la loi. Mais non,
la loi, moi je rajouterais, admettons qu'il n'y a pas la loi, le consentement aussi. Même si le souci,
c'est
qu'il pourrait potentiellement
morale,
avoir
la
consentement.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y avait pas la loi qui disait qu'on n'avait pas le droit, exactement comme l'inceste qui dirait une loi qui dit que ce n'est pas permis, en fait, qu'est-ce qui nous empêche finalement, mis à part quelque chose de moral, justement, une loi, de le faire?
Après, pour l'inceste, c'est plutôt aussi pour des raisons biologiques.
Oui, aussi, mais donc, c'est quand même un jugement, en fait, qui nous empêche de le faire. Et du coup, pour moi, ça se relie par rapport à ça, où finalement, et c'est très bien comme ça, ça nous empêche de se dire, en fait, on est dégoûté parce qu'on se dit, mince, mais je suis attiré par quelque chose que moralement, on répulse. Même si c'est maquillé, même si, voilà, si c'est pas l'enfant qui t'attire, même si c'est pas, voilà... Mais c'est quand même lié à cette peur-là, je pense, principalement. Et c'est perturbant de ne pas connaître l'âge des personnes aussi. C'est très perturbant.
D'ailleurs, moi, j'ai 12 ans.
Non, mais moi, un truc qui m'a fait réagir dans ce que tu as parlé, c'était beaucoup il ne faut pas que les petites filles s'habillent de façon qu'elles apparaissent plus âgées qu'elles sont pour ne pas aguicher les hommes. Et moi, je me dis, genre, c'est un des gros trucs qu'il faudrait régler, c'est juste genre, l'éducation des jeunes enfants hommes, enfin des jeunes hommes.
Oui, bah oui.
De ne pas forcément prendre ça comme une invitation et aussi de normaliser un peu que les femmes puissent montrer leur corps et puissent être libres dans ce sens-là. Ah oui. Quoi.
Mais c'est le souci, c'est dès que tout le monde fera comme ça, ça ne posera plus problème. Mais la transition pour y arriver, on sera là, ah, mais c'est choquant.
Ouais.
Oui, et aussi... je pense Laura et Virginie me connaissent, du coup elles savent qu'il faut certains de mes propos des fois le prendre au second degré.
Donc
des fois je
beaucoup
sais que
beaucoup de second degré. je répète, une louche de second degré, un sac, deux as.
C'est juste que je sais que des fois les gens s'ils me connaissent pas juste à la radio, faites attention. Voilà, c'est ça. Mais ouais.
Eh ben merci en tout cas pour deux chroniques et pour cette discussion débat. Et je pense que là, il est temps de mettre un petit peu de musique. Et quel est le prochain?
Et c'était Skyfall d'Adèle, c'est ça? Eh bien, parfait. On peut lancer ça.
À tout de suite.
Le ciel est tombé, maintenant c'est à Virginie de nous faire tomber.
Le ciel est tombé. C'est quoi cette transition?
J'étais là, je vais faire un truc pourri.
Ouais, d'accord. Il l'était bien, mais je valide. Et oui, moi je vais vous parler aussi de la sexualisation, on ne va pas y échapper. Un mot connu, ou du moins qui laisse imaginer aisément le thème qu'il aborde. Lorsque je me suis mise à chercher un angle d'attaque pour cette chronique, je bloquais. D'ailleurs, je m'excuse déjà si mes pensées peuvent être confuses, parce que ce terme, finalement... englobe tout sans rien englober. C'est à la fois un thème très vaste dans lequel on peut mettre plein de sujets qui sont liés à la sexualité sans pour autant le définir clairement que lui-même. Donc, je suis donc allée voir mon grand ami d'enfance, sur qui j'adorais coller le bout de mes doigts pour atteindre mon but le plus vite. Je veux bien entendu parler du dictionnaire. Et j'y ai cherché la définition de la sexualisation. Alors, j'ai été surprise en soi du résultat, car je ne le savais pas, mais ce nom possède deux significations. La première dit « apparition au cours du développement d'un individu des traits caractéristiques de l'un des deux sexes ». Cette première approche concerne donc l'évolution du corps humain, une maturation si l'on peut dire, qui implique la visibilité physique d'éléments constituant le corps. Une définition qu'on peut facilement assimiler à la puberté par exemple, qui laisse apparaître justement des différences de corps. La seconde définition, par contre, exprime que la sexualisation est l'action de sexualiser ou le fait d'être sexualisé. C'est lié plus ou moins, mais histoire d'être sûr de quoi je parlais, j'ai poussé mes recherches académiques plus loin en prenant la définition de sexualiser qui signifie donner un caractère sexuel à quelque chose ou quelqu'un. Cette deuxième interprétation implique donc une mise en mouvement de notre part, d'à la fois porter du sens sexuel sur des objets ou des êtres, mais également celui d'impliquer le regard des autres qui peuvent alors nous transformer en objets en nous sexualisant également. Dans la première définition, on a un sens biologique, basé sur ce que l'on voit des personnes, triant les individus par des critères morphologiques. Dans la deuxième, on part sur une attribution de sens social, en donnant un avis sur ce qui est sexuel ou non. Toutefois, si l'une semble plutôt objective, en ne se basant que sur les aspects visuels qu'on a d'une personne, n'oublions pas que nous classons ces attributs physiques dans des genres établis dans la pensée commune, le féminin et le masculin. Ainsi donc, la sexualisation n'est autre qu'un outil permettant d'une part de mettre les individus dans une case de genre, et de l'autre, permet de leur attribuer des caractéristiques sexuelles en déterminant ce qui attire chez l'un ou l'autre des sexes. Je ne vais pas vous perdre plus loin, mais en soi, cette conclusion n'a rien de surprenant. Nous avons tous en tête des codes sexuels inculqués qui trient ce que nous voyons pour les ranger dans des cases de genre. Pour ainsi dire, si quelqu'un vous dit, par exemple, des longs cheveux, ça fait fille. Eh ben, un petit voyant s'allumera très certainement dans votre cerveau en éclairant la case de nez féminine dans laquelle sont rangés tous vos souvenirs de princesse, Disney, tuto beauté, cheveux, les mannequins, la majeure partie des héroïnes de dessins animés, bref, une panoplie de souvenirs dans lesquels cheveux égale être une femme ou en avoir l'air. Après, j'espère pour vous qu'un autre voyant peut s'allumer, et Dieu merci, qui vous dira qu'il est possible qu'un garçon ait aussi les cheveux longs. Mais en soi, vous comprendrez pourquoi l'assimilation cheveux longs-fille sera faite. Et cela va pour tout. Muscles, forts, cheveux courts, seins, robes, talons et j'en passe, autant de caractéristiques liées aux deux genres qui proviennent de nos souvenirs. Éducation, publicité, cercle d'amis ou simplement interaction qu'on a avec des individus au quotidien sont autant d'éléments influençant notre réservoir de représentation de la société. Mais donc, si l'on part du principe que la sexualisation est le fruit de nos interactions sociales et de notre cercle d'intimité, si l'on conçoit ainsi que ces données ne sont pas innées mais qu'elles sont instruites par le milieu dans lequel on baigne, alors il est donc possible de les modifier, non? Et ce postulat n'est absolument pas utopique lorsqu'on regarde les combats menés aujourd'hui pour la reconnaissance d'une catégorie dite non-genrée, par exemple, ou pour toutes les luttes féministes qui veulent qu'il soit possible d'être non pas dans un moule donné par notre genre, mais qu'on puisse être comme bon nous semble et pour autant être bien dans ses baskets. Car si l'on garde cette métaphore, comme chaque individu se sent bien dans une paire de chaussures qu'il aura choisie avec ses goûts, ses critères de confort et son envie du jour, car oui, pourquoi s'imposer quelque chose pour toujours? Eh bien, pourquoi devrions-nous, selon notre genre, forcément correspondre à une classe de critères physiques et ne conserver que ce qu'on nous a imposé dans nos souvenirs? Je vous assure que si vous prenez cette pensée-là, le panorama de ce qui peut être sexualisé n'en sera que plus grand et abordé avec d'autant plus de bien-être. Et je peux vous assurer que vous pourriez avoir quelques surprises de ce que vous sexualiseriez.
Moi, je voulais juste revenir sur un mini-point. C'est... Bah, à la fois, oui, je comprends qu'il y a une grosse partie qui vient de... la société sur où on a grandi, à la fois, bah, tu regardes dans le milieu animal, il y a quand même aussi une différenciation physique naturelle, entre guillemets. Et, enfin, j'ai du mal à voir les rhinocéros en train de se dire oui, c'est une construction sociale. Il y a quand même une partie qui est...
Là, tu parles de l'attirance, du coup. Plus dans le sens de la sexualisation, pour
non,
moi,
en gros,
c'est...
En gros, qu'il y a une différence bien sexuelle.
Tu dis fille-garçon, par exemple,
ouais,
de genre.
Après, pour les cheveux, bah, effectivement, là, ça se discute, mais voilà, pour les seins...
Les attributs. Après, ouais, moi, je te répondrai à ça que actuellement la société, on l'a construit sur deux genres, le féminin et le masculin. Mais si on regarde plus près morphologiquement, il existe autant de personnes masculines qui ont une morphologie différente que de personnes féminines, dites féminines, qui ont une morphologie différente. Et de là-dedans, si tu veux aller plus loin encore, peux parler par exemple de toutes les catégories qui sont entre deux, les intersexes par exemple, des personnes qui sont nées, soit par exemple pour des hommes, si on part dans des genres, ce qui s'assimilerait le plus à des hommes avec des pénis qui sont rentrés, en fait, qui ressembleraient plus à des vagins, et des personnes dites féminines qui auraient plus, par exemple, des clitoris longs, comme des pénis. Du coup, il y a une diversité de physique, en fait, différent du manière de la sexualité, si on prend vraiment de manière brute, en fait, le corps, qui, moi, me laisse penser que, ben, on a mis deux classes, parce que, ben oui, il y a la reproduction, oui, il y a quelqu'un qui a des spermatozoïdes, quelqu'un qui a un ovule. Mais finalement, ça peut être beaucoup plus flou parce que y a des personnes qui ne sont pas dans ces cases peuvent se sentir très mal et ça impose aussi que ces personnes doivent correspondre à des critères. Et du coup,
ouais,
c'est là
je
aussi
pense
où
on a
part
du...
le problème.
Justement, c'est ce qu'on a du... enfin, moi, je pense que j'ai du mal à différencier entre le les caractéristiques sexuelles naturelles et le autre chose justement pour le genre. Et souvent,
mais après,
je trouve
le genre est encore quelque chose de différent.
Ouais, exactement.
Parce que là, en fait, moi, je te parle plus de ce qui s'apparente à être fille ou garçon. Mais le genre, c'est être féminin, masculin. Et là, c'est pas la même chose dans le sens où
mais
le genre, c'est
plus
des caractéristiques
posées. J'ai l'impression qu'on a des fois
tendance
à... On n'est pas au clair sur les définitions et du coup, on mélange un peu tout ça, en fait. Du coup, c'est difficile, des fois, de discuter clairement.
Là-dedans, qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, dans la discussion. Amy, tu avais l'air perplexe. Dis-moi.
C'est vrai que c'est compliqué d'avoir un discours un peu féministe, genre, oui, j'ai pas besoin d'avoir des cheveux longs pour être une femme, ou comme ça, quand on regarde, ah oui, mais le côté biologique, on a l'homme, la femme. Enfin, c'est vrai que, bon, perso, en étudiant la biologie, genre, je comprends vraiment cet argument, et c'est vrai que moi, ça me pose vraiment un souci, un peu un paradoxe entre... Certes, il y a genre deux sexes, c'est parce que c'est comme ça que la reproduction ça marche, blablabla, pour la reproduction de la vie. Mais dans la société humaine, c'est assez intéressant le paradoxe que ça pose, qu'on veut, enfin, de l'égalité, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à être égaux en tant qu'être humain, mais nos corps, ils sont quand même différents?
J'aimais bien l'idée, il n'y avait pas d'égalité, mais complémentarité, bref.
Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu entre les trois trucs qui font un être humain, c'est l'orientation sexuelle, le sexe et le genre. Tu peux avoir un genre qui ne va pas avec ton sexe et une orientation sexuelle qui est encore tout autre.
Et tu peux aussi, sans nier justement l'existence biologique de la reproduction, qu'il faut justement des gamètes dites masculines et des gamètes dites féminines. Fille garçon plutôt, pas féminine masculine, ça c'est encore un autre niveau, excusez-moi, je mélange les deux. Mais pour autant, tu peux très bien être un individu qui a des spermatozoïdes, mais pourtant avoir des longs cheveux, avoir peut-être tout d'un coup une morphologie qui te fera plus penser à quelque chose de féminin. Moi, ce qui me dérange peut-être plus, et qui justement c'est un peu ça que j'ai voulu ouvrir, mais que j'ai très mal fait dans ma chronique un peu brouillon, parce que mes idées étaient un peu voilà, c'était plus le côté que tu as le droit de ressembler à ce que tu veux. Dans le sens que j'ai l'impression, et c'est un peu ça, que les genres imposés veulent que les garçons soient d'une certaine manière, les filles soient d'une certaine manière pour qu'on les reconnaisse.
Il y a deux moules
Et ça, c'est souvent un critère que j'entends beaucoup quand je parle autour de moi des deux genres. C'est « Oui, mais bon, après, on sait plus qui est qui. Une petite fille, si tu lui mets pas du rose, comment on peut savoir que c'est une petite fille ?»
Avant d'être une petite fille.
Mais c'est ça qui montre aussi bien la chose, c'est qu'un enfant de base n'est pas différenciable. Ce qui va différencier après, c'est justement quand tout d'un coup il y a une sexualisation du corps morphologiquement, où là tout d'un coup on va dire on sait que les filles ont des seins, par exemple, si je te dis ça comme ça, mais après ça justement ça c'est plus fermé parce que il y a des hommes qui peuvent avoir des seins aussi. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a une différenciation. Mais ça perturbe de pas avoir des gens dans des cases, de pas pouvoir dire « Ah ça, c'est une fille, ça, c'est un garçon. »
Ça désoriente.
C'est ça aussi, quand on est plus grand, même si les seins peuvent être un attribut, mais il y a des filles qui n'ont pas de seins aussi. Qui ont des seins, oui, mais qui ne les ont pas comme on l'entend, de la manière sexualisée, plantureux, qu'on voit, qui voilà. Et moi, j'ai déjà des potes en soirée qui m'ont dit « Ah, c'est chiant, je sais pas si la personne là-bas, c'est une fille ou un garçon. » Moi, j'ai envie de lui dire « Mais bro, si Jean-Ri te plaît ou elle te plaît, fonce !» donc ça montre aussi, dans ces moments-là de malaise, un peu des moments où on se dit « Bah ok, la sexualisation des corps, le fait de vouloir différencier absolument et de mettre des attributs du côté masculin, du côté féminin, ça crée aussi ce problème que finalement, on fait ça seulement pour avoir des catégories facilement différenciables et dans lesquelles on peut ranger les individus. » Et c'est ça qui me pose problème, c'est que du coup, pour moi, il faudrait que ce soit possible de naviguer entre toutes ces caractéristiques sans se sentir pour autant mal et devoir à chaque fois justifier pourquoi.
Et je crois que ça va être le moment de lancer la musique et plutôt de balancer ton quoi de Angel. Merci Laura.
Ils parlent tous comme des. Pardon,
je n'ai pas pu m'empêcher. C'était trop beau.
Virginie, dehors.
Et Léo, t'es de retour à la tech?
Il faut bien s'entraîner. Comme ça, Laura, elle a un peu de repos.
Laura sourit derrière son masque, car elle est contente. Elle a retrouvé l'usage de ses mains et elle peut bouger le micro comme bon lui semble, sans devoir gérer la tech. Et c'est très bien comme ça. Et il est maintenant l'heure du bizutage, du coup, de notre nouvelle. Attention!
Et oui, on va faire la chronique sans le papier.
Non, on commence pas à faire ça. Alors, comment t'expliquer que non? Amy, qu'est-ce qui se passe? Hélas, mon Dieu, mais je suis venue dans l'émission, mais je ne savais pas que je devais parler. J'ai proposé le thème en pensant que je ne devais pas écrire dessus. Merde. C'est à toi.
Ok, d'accord. Alors, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde vit une bonne pandémie planétaire. Ce soir, on vous parle de sexualisation. Wouhou ! Mais aussi... Oh. Parlons plus d'abord plutôt du... Oh, concernant la sexualisation. Plus précisément, celle qui concerne les femmes. Oui, parce que quand on est femme, dès qu'on est enfant, puis adolescente, on nous martèle le crâne, alors pas toujours consciemment, que être une fille, puis une femme, c'est être jolie, se mettre en valeur, se sentir bon... Au final, un peu comme une Barbie, mais sans la boîte autour et les fils de fer impossibles à démêler. Ah, mais en tout cas, Angélique, passe-moi les tenailles, là.
C'était chiant, ça. C'était chiant pour les avoir.
Bref, et comme Barbie, on peut bien sûr avoir une occupation très respectable, comme gardienne de zoo, chirurgienne ou hôtesse de l'air. Mais
bah
attention,
oui.
Il nous faut toujours respecter quelques règles implicites que beaucoup ont essayé d'abolir avant nous, mais qui persistent toujours. Premièrement, porter du maquillage. Pendant 15 minutes, tous les matins, prendre des pigments et avec des pinceaux et les mettre sur son visage. Ah oui, et si vous n'avez pas deux chromosomes X, n'en mettez pas, c'est bizarre. En fait. Perso, j'ai arrêté de me maquiller il y a environ 2 ans. Au début, et pour un bon moment, c'était une sensation très bizarre de sortir le visage nu. C'était surtout très chiant d'entendre des « Oh ma pauvre, t'as l'air fatiguée » ou « Ça va, t'as l'air malade ». Yes. Mais petit à petit, je me suis sentie mieux avec mon véritable visage et ai commencé à l'aimer. Victoire. Deuxième règle implicite à respecter quand on est femme. Les habits. Encore une fois, on prend un concept très fun et créatif et on en fait un truc plutôt moyen. Les jeans, oui, mais moulants au possible. Les poches, oui, mais minuscules, afin d'être sûr qu'on n'aura aucun volume au corps fin et élancé que nous devrions tout avoir.
Bah, logique.
Ensuite, un soutien-gorge pour cacher ses seins, mais quand même les mettre en valeur, mais quand même qu'on ne voit pas les tétons, mais un peu quand même. Ah.
C'est simple pourtant.
Des chaussures, oui, mais oublie pas les baguettes chinoises sous le talon. Hein. Ouais, je sais, c'est pas super pratique, mais c'est d'un chic.
Moi, j'ai aucune idée de ce que c'était ce terme.
Les baguettes chinoises.
Bah, les chaussures à talons, quoi, avec les énormes talons hyper, talons aiguilles.
Tu sais que je connaissais pas cette expression?
Je l'ai inventée.
Ah, d'accord, ok.
J'étais là, je suis un homme, je ne connais pas les accessoires féminins.
Oh là, pourtant, je te vois tous les soirs qui essayent
les talons
dans ta chambre.
Ouais, c'est vrai.
On est horrible, c'est pratique.
Et encore une dernière petite règle implicite pour être une femme acceptable. Enlevez voir ces poils-là, s'il vous plaît. Oui, car d'après les industriels du rasoir et de la crème dépilatoire, les poils sur le corps féminin, c'est disgracieux, sale et... Mais on dirait qu'elle se laisse aller, là, Régula, avec ses poils aux jambes, tu trouves pas?
C'est une vieille fille, donc voilà.
En tout cas, moi, je pourrais pas, là. Bref, voilà un petit résumé de la sexualisation imposée aux femmes au quotidien. Bon, bref. Bon, après, on est un peu tous coupables de cette imposition. On a tous grandi... entouré de stéréotypes vus à la télé, à l'école, dans les médias, que l'on perpétue sans s'en rendre compte. Bon, au début de cette chronique, je vous ai dit qu'on parlerait aussi de l'aspect wouhou de la sexualisation des femmes.
Et oui. Deuxième round.
Malgré tout le tort que cela peut nous amener si on nous l'impose, la sexualisation faite de manière volontaire peut être très libératrice et surtout un max de fun. Prenons l'exemple de Cardi B et Megan Thee Stallion. Avec leur nouvelle chanson « WAP », pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'acronyme de Wet Ass Pussy. Les paroles et le clip sont donc, comme on peut le deviner, très sexuellement explicites. Les rappeuses parlent de désir féminin sans passer par mille chemins. Critiqué par les milieux conservateurs, le titre cartonne malgré tout, notamment parmi les utilisateurs de TikTok qui lui ont déjà inventé une danse spécifique. Le pouvoir de cette chanson, c'est surtout de reprendre le pouvoir sur sa sexualisation. D'être sexuel si on le veut et comme on le veut, et de mettre à la poubelle la décence d'antan. Donc à toutes les régulas qui veulent plus s'épiler, you go girl. Et à tous les Joachim qui se sont toujours demandé si un petit eyeliner smokey eyes intensifierait leur regard, allez-y, amusez-vous.
Moi, je tiens à préciser justement que j'ai arrêté à 5 ans de me peindre les ongles. Hein, parce que c'était le moment où j'ai réalisé, ah merde, en tant que gars, je ne peux pas faire ça.
Non, je garde des enfants et en fait, le grand, la maman, elle lui a tout de suite acheté ce qu'il adorait le rose. Mmh. Et en fait, il lui a acheté justement, tout ce qu'il voulait en rose, en fait, finalement. Et il y avait un petit livre qui m'avait vachement perturbé, c'était Le petit garçon qui aime le rose. Et en fait, ça montre bien aussi le souci, en fait, qu'un garçon ne peut pas aimer le rose, qu'on doit faire un bouquin pour juste dire au garçon, mais c'est normal, vous avez le droit, d'aimer le rose.
Là, c'est pas que je peux pas aimer, c'est plutôt, Tout seul de mon côté, c'est bon, mais dès que t'as le regard des autres,
ouais, c'est compliqué. Ça qui fait chier. Et maintenant qu'il grandit, le petit, bah, justement, il commence à avoir des trucs bleus, des trucs voilà. Puis, je sais pas si c'est dû à l'envie ou si vraiment c'est juste parce que un jour il a eu des railleries ou quoi. Et du coup, c'est assez perturbant à voir en fait.
Eh bien, voilà. Avant de passer à la conclusion, je pense que tu vas pouvoir nous annoncer la prochaine émission.
Oui, alors du coup,
la prochaine musique.
Bah, c'est du coup le WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion.
Fait bien.
On va écouter bien les paroles. À tout de suite.
Et on arrive au terme de cette émission. Je tiens à souligner, si jamais, Laura, que tu as un twerk magnifique.
Ah oui, alors, là, franchement, j'étais surpris. J'étais là, Laura, je te voyais pas comme ça.
On t'invite et tout quand il y a personne. Ah, chers auditeurs, chers auditrices, vous avez loupé quelque chose. Mais on va pas te mettre plus mal à l'aise. On a découvert un de tes talents. On l'exploitera une fois lors d'une émission. Mais du coup, avant de finir, Amy, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a réagi à ta chronique.
Oui, il y a une personne qui a envoyé un message parlant de la sexualisation des poils à Taïwan, ce qui est pour moi, genre hyper.
Ah, mais
marrant.
Oui, c'est vrai, dans le milieu asiatique, c'est vrai. Ouais, vas-y.
Enfin, c'est super intéressant, quoi, de voir un truc ici, non, dégoûte pas mal de gens. Enfin, comme quoi l'espèce humaine n'est pas fixée sur des trucs et puis que ça peut très bien changer d'une culture à l'autre, ce qu'on trouve attirant et ce qu'on trouve un peu moche.
Voilà. Et du coup, il se passait quoi à Taïwan, hein? C'était quoi le but?
Moi, ce que j'ai compris, c'est que dans certains pays asiatiques, c'est mieux vu d'avoir des poils que de pas en avoir. Et du coup, parce qu'aussi l'absence de poils, ça pourrait faire petite fille de 5-6 ans.
Ouais. Moi, c'est pas ce que j'ai compris des messages qu'elle a envoyés.
Ouais, c'est pas ça qu'elle a envoyé.
D'accord. Mais alors, moi, en tout cas, je crois que j'avais entendu ça dans la pornographie. Ils préfèrent justement des
alors, généralement,
des femmes avec des poils.
Les pornographies japonaises, en tout cas, il y a pas de poils. Moi, je te le dis, la plupart n'ont pas de poils après. Mais alors, ça, c'est plus dans le porno. Si tu regardes par contre des films qui sont des vieux films traditionnels chinois ou japonais, là, les femmes ont des poils, mais généralement pas sur les jambes, pas sous les bras, mais sur le pubis.
Je dirais, ça dépend si c'est du porno japonais pour l'international ou
le. Alors, très certainement, ce serait intéressant de regarder. Mais les messages qu'on a reçus, du coup, c'était marqué c'est dingue à quel point les corps des Taïwanais n'ont pas de poils, à quel point j'étais mal à l'aise quand je voyais des adultes nus, genre en maillot de bain. J'arrivais pas à les trouver attirants. Ils étaient donc choux pour moi, mais jamais sexy. Et c'est là qu'on voit la différence qu'il y a. C'est vrai que ça peut vite être perturbant aussi de rejoindre en fait ce qu'on appelle les impubères, enfin pas les impubères, les imberbes, voilà. beaucoup. Moi, j'ai des amis qui préfèrent les garçons ou les filles imberbes. Et pareil, c'est le même débat pour comment doit être le je vais y arriver. Je m'excuse. Le vagin ou le tour en fait du pubis féminin. Et du coup, les sujets sont variables, mais pour les garçons, par contre, la plupart me disent, mais en fait, c'est bizarre quand il n'y a pas de poils, parce que j'ai l'impression de coucher avec une petite fille. Et c'est pareil pour les garçons, où ça peut faire vite jeune. Oui, Lara.
J'avais entendu un de mes potes dire à sa copine que si un jour elle voulait qu'il se sépare, elle avait qu'à plus s'épiler, comme ça il saurait que c'est fini.
C'est chaud quand même,
c'est
ça.
Ouais, horrible, hein. Et elle était ok, d'accord.
Mais alors je dirais alors autant moi personnellement j'ai peur du principe que d'une relation ne doit pas y avoir de pression. Après, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'inconsciemment, si l'autre ne s'entretient pas, là c'est différent, c'est la beauté, mais ça peut être aussi une question d'entretien physique.
Des fois,
peut y avoir comme cette sensation de se dire l'autre se laisse complètement aller, la personne tout coup ne devient plus attirante parce que selon nos critères de beauté, en fait, elle nous a attiré. Par exemple, imaginons un gars qui faisait de la muscu, qui nous attirait parce qu'il avait des muscles. Alors, faut pas non plus être en outrance, il y a quand même un juste milieu. Mais imaginons que toi, ce qui t'attirait chez lui, c'est ses muscles, aussi son intelligence, sa personnalité, tout ce que tu veux. Mais physiquement, en fait, c'était plus son corps. Et tout d'un coup, cette personne se laisse aller. Mais ça peut être l'inverse aussi, féminin-masculin. Et que tout d'un coup, en fait, tu ne sois plus attiré par son corps. Tu aimes la personne, mais physiquement, il n'y a plus d'attirance. Et ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir lors d'une émission. Mais c'est toujours quelque chose, je trouve, qui est vachement complexe. Parce que la première réaction serait de se dire « Ouais, mais c'est dégueulasse !» Parce que du coup, la personne a juste changé de physique. Mais finalement, si on y réfléchit, ce qui nous attire dans un sens chez une première personne, c'est visuellement le contact, le regard. Ça peut être un critère quand même qui joue beaucoup. Et sexuellement aussi, si tu couches sans avoir de désir ou d'envie, ça devient problématique. Dans un sens.
Je pense qu'on va pouvoir annoncer la prochaine émission,
c'est ça? Exactement, j'allais dire qu'il fallait conclure. Hein.
Exactement.
Alors, on va vous laisser, chers auditeurs, chers auditrices. On espère vous retrouver dans 2 semaines avec une émission. Avec un peu de chance. Merci, Amy, d'être venue. Et ben, du coup, à tout bientôt pour une prochaine émission qui sera, si je ne dis pas de bêtises, si tout se passe bien, dans 3 émissions.
Ouais. C'est ça.
Et pour les autres, Laura et Léo, bah, merci d'avoir été là, merci pour vos chroniques, merci pour ces débats. Si vous avez des commentaires à nous faire, si vous voulez encore rebondir, si vous voulez aller réécouter le podcast qui sera bientôt en ligne, n'hésitez pas à le faire sur notre page Facebook, on se fera une joie de vous répondre sous Fréquence Banane, la banane rose. N'hésitez pas. Mais en attendant, eh ben, on vous souhaite une bonne soirée.
Exactement, c'est une soirée pleine d'amour, l'amour car... La prochaine musique, c'est « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel.
Tes transitions sont vraiment pourries, j'aimerais quand même le dire. Bonne soirée, profitez bien, d'avance un bon week-end et une bonne soirée. Have fun.
Bye bye.